On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel, on le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve
de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine. Bonsoir,
bonsoir,
bonjour. Nous sommes arrivés malgré la neige. Et donc aujourd'hui, on va faire une émission autour du Strass, la thématique, ça sera autour de l'AG du Strass, mais tu nous en diras plus tout à l'heure, et d'un reportage sur prostitution et féminisme. On peut dire ça comme ça.
Je travaille du sexe et féminisme.
Oui, voilà.
On est de plus en plus au taquet sur la notion de travail du sexe.
Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Les infos. Alors, pour l'international, on commence par le Honduras, où un activiste LGBT a été assassiné. Donc, Walter Orlando Trochez, un activiste des droits de l'homme et LGBT, a été tué dans une fusillade dimanche 13 décembre dans le centre-ville de Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Cet activiste avait participé activement au mouvement de protestation contre le coup d'État militaire qui a renversé le président José Manuel Zelaya. Il est également à l'origine d'une campagne d'information dénonçant les meurtres homophobes commis par les forces de l'ordre depuis le coup d'État. Depuis ce coup d'État, la police procède à des arrestations de militantes, notamment LGBT, et est responsable de plusieurs meurtres d'activistes. Donc, selon ses proches, c'est cette campagne qui serait le motif de son assassinat. Il y a 2 semaines, alors qu'il dénonçait le traitement des prostituées trans, Walter Trochez avait été kidnappé par des policiers masqué et battu jusqu'au sang. Il avait déposé plainte contre la police. Les militants LGBT soupçonnent des agents du gouvernement d'être responsables de son assassinat.
Alors, en Ouganda, Pepsi s'excuse d'avoir sponsorisé un concert homophobe. Biniman, un chanteur reggae, invite à assassiner des lesbiennes et des gays dans un certain nombre de ses chansons. Il a donné un concert en Ouganda alors que ce pays envisage notamment actuellement une nouvelle loi ultra répressive contre les homosexuels qui les punirait de la prison à vie et même de peine de mort pour les séropositifs. Plusieurs groupes de défense des personnes LGBT anglo-saxons ont protesté contre le soutien apporté par Pepsi à ce concert. Et dans un communiqué, la compagnie Pepsi se dit consternée par les paroles de l'artiste qu'elle juge répugnantes. Elle affirme que sa filiale en Ouganda n'était pas au courant de ces textes et n'aurait jamais parrainé le concert si elle en avait eu cette connaissance. Oh là là, ce ne serait qu'une petite maladresse de la part de Pepsi. Et puis, une fois le concert fini et les thunes amassées, c'est bien simple de faire un petit communiqué pour s'excuser. Ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. D'ailleurs, en parlant de la loi anti-gay de l'Ouganda, Devant les nombreuses pressions internationales, les autorités ougandaises pourraient supprimer les deux peines les plus lourdes, initialement prévues par la loi en projet. Une commission parlementaire propose que la prison à vie et la peine de mort soient abandonnées. L'essentiel du texte, visant à renforcer la lutte contre l'homosexualité et sa promotion, demeure néanmoins.
Oui, ben, sale temps pour l'Afrique centrale, en tout cas pour un certain nombre de gens d'Afrique centrale, hein, puisque Rwanda, qui est un pays voisin de l'Ouganda, on en revient à l'incrimination de l'homosexualité. Voilà, communiqué, l'article 217 du projet de révision du code pénal concernant l'homosexualité prévoit que, je cite, toute personne pratiquant, encourageant ou sensibilisant des personnes du même sexe à une relation sexuelle ou toute autre pratique sexuelle, je ne comprends pas très bien, sera passible de peine de prison allant à 5 à 10 ans et une amende de 200 000 à 1 million de francs rwandais. Ce qui revient avec les termes encouragés et sensibilisés, une interdiction de fait de toute forme, évidemment, de militance ou d'évocation d'homosexualité. L'association LGBT locale HOCA, Horizon Community Association, et la coalition des lesbiennes africaines dénoncent ces mesures envisagées. Bah oui, c'est bien le moins. Ces associations soulignent que l'article 217 viole la constitution rwandaise, alors peut-être qu'il y a un recours, et plusieurs textes internationaux auxquels le pays a souscrit. Nous voulons, je cite, que notre peuple et notre gouvernement reconnaissent notre existence et le fait qu'il est de notre droit fondamental de vivre nos vies la façon dont nous voulons, a déclaré un porte-parole de Horizon Community Association. Petit rappel, le Rwanda est un pays, bon, comme beaucoup d'autres pays, où l'Église est assez puissante. Ah, l'Église catholique, hein, je veux dire. Ça pourrait être des réformés, ce serait pas mieux. Alors, l'autre pays, voilà, c'est un pays aussi où l'Église est assez puissante, mais bon, c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne. Alors, des fois, c'est pas très facile de faire des pas de côté. L'Autriche adopte l'union civile pour les homosexuels. Le Parlement autrichien a adopté jeudi 10 décembre, à une large majorité, c'est ça qui m'étonne, la création d'un contrat d'union civile limité hein, pour les couples homosexuels souhaité par le gouvernement de grande coalition gauche-droite. Au terme de ce texte, les couples homo pourront faire enregistrer leur union à la mairie, mais sans pouvoir y organiser de célébration. C'est un peu mesquin, comme dirait l'autre. Ça fait penser à l'interdiction des drapeaux étrangers en France pour les mariages, par exemple. C'est vraiment mesquin. La nouvelle réglementation s'aligne sur celle dont bénéficient les couples hétéros en matière de retraite et de pension alimentaire. C'est déjà ça. Les partenaires pourront également porter le même nom. Ah, ça, c'est marrant aussi. En revanche, elle exclut l'adoption commune d'un enfant, même né par insémination artificielle. Ouais, des grandes peurs actuelles. Issue de mois de négociations entre sociaux-démocrates et conservateurs sur fond d'opposition de l'Église catholique, ce texte de compromis était rejeté par l'extrême droite, opposition, qui a jugé qu'il s'assimilait à une croisade contre les familles. Bah, peut-être, j'en sais rien. À l'inverse, les Verts ont également majoritairement critiqué le projet de loi, estimant qu'il pénalisait trop les unions homosexuelles par rapport au mariage hétéro. Toujours en France, évidemment, on est toujours dans statu quo, toutes les propositions de loi qui sont avancées par la gauche et qui sont souvent pas hyper audacieuses sont refusées. Il faut, je rappelle que j'avais dit ici même, je sais plus pour quelle émission, que même les propositions de loi de l'UMP étaient quelquefois recalées par ses propres députés parce qu'elles sont trop audacieuses et pourtant elles vont pas loin.
Ah oui, j'ai loupé une info. C'est un appel pour dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. Donc le 10 décembre dernier, Journée internationale des droits de l'homme, Prodop et Alternative Cameroun, associations travaillant notamment sur les droits LGBT, ont envoyé une lettre au président camerounais Paul Biya pour l'appeler à dépénaliser les relations homosexuelles. Selon un article du Code pénal, elles sont actuellement passibles de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 200 000 francs CFA, ce qui revient à 300 euros. Des personnes LGBT ou présumées LGBT sont régulièrement arrêtées, humiliées, violentées. En dépit de ce contexte, le collectif d'associations camerounaises croit en ses chances de convaincre le chef de l'État. Le collectif se base sur l'anticonstitutionnalité du texte qui va à l'encontre de traités internationaux ratifiés par le Cameroun. Les deux associations ont également lancé une opération de sensibilisation. Elles ont lancé une vaste campagne pour la dépénalisation de l'homosexualité le 5 novembre à Douala, capitale économique du Cameroun. Courant novembre, la pétition lancée par les deux assos comptait 1600 signatures et a été remise à l'Assemblée nationale. Une lettre où était écrit « Qui fait le plus de mal à notre pays ? Quelqu'un qui détourne les 10 milliards de francs CFA qui devraient servir à construire 100 centres de santé dans la... sans centre de santé dans l'arrière-pays, ou quelqu'un qui, dans le secret d'une chambre, aime quelqu'un, fût-il du même sexe, a également été envoyé au président de l'Assemblée. Affaire à suivre. »
Maintenant, des infos nationales.
Ah bon, bah alors c'est moi la suivante. Alors, dans la famille, la France est le pays de Tartuffe. J'adore toujours ça. L'association Birds of Rainbow, qui est une association de lycéens et d'étudiants strasbourgeois, a fait un très bon communiqué par rapport à la dernière campagne d'affichage du gouvernement sur la discrimination des personnes homosexuelles, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est très marrant parce qu'une fois de plus, j'ai remarqué sur les affiches le mot lesbienne, c'était pas possible de l'écrire. Hein. C'était une femme homosexuelle. Bon, donc l'association LGBTI des campus et lycées d'Alsace qui dit on n'est pas du tout satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire. La campagne contre l'homophobie lancée en juin dernier dans les universités, mais en fait, elle est pas que dans les universités. Hein. J'ai vu des affiches sur les murs là, à Lyon. C'est une campagne nationale. Je vous lis un bout de leur texte. Nous devrions être satisfaites. Nous devrions nous dire, enfin, le gouvernement réagit. Mais nous ne pouvons, ne devons pas l'être. Car cette campagne, qui part sur le présupposé qu'une étudiante lesbienne ou gay, on n'y parle évidemment pas d'étudiante bisexuelle, intersexuée ou transgenre, mène une vie compliquée à la fac, et même ailleurs, à cause de l'homophobie et d'autres bancs d'université à son encontre. L'association nous explique également que cette homophobie ne relèverait, d'ailleurs elle le relève, moi j'enlève le conditionnel, que la subjectivité individuelle, que les agressions homophobes seraient des actes isolés commis par des citoyens lambda. Les actes et les comportements homophobes peuvent avoir des conséquences désastreuses pour ceux qui sont victimes. Citation. Or, poursuit l'association, encore citation, quotidiennement des actes homophobes sont commis par l'État français lui-même et les institutions qui en dépendent, à l'encontre de l'ensemble des personnes LGBTI. Interdiction pour les couples de même sexe de procréer, d'adopter, de se marier, transidentité toujours associée à une pathologie, opération chirurgicale systématique des enfants intersexuels en naissance pour les faire entrer dans la norme. La sous-représentation des lesbiennes, je cite encore, et l'absence de personnes transgenres, bisexuelles et intersexuelles au sein de cette campagne n'est que le reflet de la politique phallocrate et misogyne de notre gouvernement, une volonté d'exclure et de cacher ceux et celles qui n'entrent pas dans sa norme. Et de conclure, nous ne pouvons accepter cette hypocrisie plus longtemps. Bah oui, l'hypocrisie, grande spécialité nationale, on en reparlera tout à l'heure. Et encore dans la catégorie hypocrisie, puisque là, en gros, la grande affaire, c'est le fameux débat sur l'identité nationale, et c'est extraordinaire de voir ce qu'on peut arriver à sortir. Et ce qui arrive à sortir, je le disais encore ce matin, mais les déraillades de Besson, mais ce type-là, il va finir directement chez Le Pen, c'est assez drôle, il vient de la gauche, mais il y a des gens vraiment pas clairs à gauche. Et donc, Acte Paris, les Panthères Roses, qui s'étaient déjà illustrés avec, je vous rappelle ce slogan qui faisait référence au naturaliste du CPNT, la nature c'est pas ma culture, édite conjointement une édition spéciale d'un balch qui, là, a pour le slogan « Mon identité n'est pas nationale hein, », c'est simple, mais fallait le trouver. Même c'est marqué que en fait, ça n'a pas été inventé, ça a été inventé il y a 2 ans. Génial, ça a même été prévu. Voilà, voilà. Donc ça, on peut se procurer par correspondance auprès d'Acte Paris. Hein. Je vais te faire Acte Paris sur Google. Hein. Voilà.
Ok, on continue. On vous avait parlé de Merlin Etaille il n'y a pas longtemps. Merlin Etaille, réfugié en France pour échapper à la répression homophobe au Cameroun et en Chine, n'aurait pas échappé à l'expulsion sans une mobilisation acharnée. Donc début novembre 2009, plusieurs associations lancèrent un appel urgent à mobilisation concernant 2 homosexuels arrêtés et enfermés au centre de rétention de Hendaye et menacés d'expulsion imminente. Merlin, Camerounais, récemment réfugié en France pour fuir les persécutions homophobes dans son pays, et Tsai, qui risque dans son pays la répression homophobe. Le 10 novembre, devant la situation de plus en plus préoccupante de Merlin et Tsai, un deuxième appel a été lancé, tandis que plusieurs élus tentaient d'alerter le ministère et la préfecture. La mobilisation a permis d'empêcher in extremis les expulsions, non sans mal. C'est 1 heure avant le vol de Tsai pour un retour forcé vers la Chine que l'exécution de l'expulsion a été suspendue suite à l'acharnement de militantes et d'élus pour faire valoir ses droits. Merlin aura fait ses 32 jours de rétention et attend d'être régularisé. Si les associations soulignent l'efficacité de la mobilisation des militantes et d'élus qui aura permis d'éviter le pire, elles restent néanmoins en alerte et exigent la régularisation rapide de Merlin et Tsai.
Le samedi 12 décembre, à Paris, il y avait lieu un kissing contre l'homophobie en plein quartier des grands magasins. Donc, c'était une action qui avait été lancée d'une manière similaire dans 17 autres villes de France et aussi en Belgique, en Suisse, au Canada et en Australie. Et donc, à 16 heures et pendant 5 minutes, des gays, des lesbiennes et leurs amis. Alors il est merdique ce truc, mais se sont embrassés en public pour dire non à l'homophobie. Ensuite, la rubrique pour finir, on en rigole. Donc, on en rigole, plutôt on comprend pas. Donc en Russie, le commissaire aux droits de l'homme suggère de tenir la Moscou Pride à Berlin. Donc il déclare, ces dernières années, Berlin est devenue de facto la capitale mondiale des minorités sexuelles. Dans la mesure où il y a des relations amicales entre les maires de Moscou et de Berlin, pourquoi pas un accord selon lequel les représentants des minorités sexuelles de Moscou tiendraient leur défilé à Berlin avec le soutien de la ville. Et sauf que, quand même, il faut rappeler que c'est une manière assez habile pour lui, parce que depuis mai 2006, les autorités russes interdisent systématiquement la Gay Pride de Moscou. Les tentatives de rassemblement ont été matraquées par des nationalistes et religieux en 2006 et 2007 sous l'œil complètement indifférent des forces de l'ordre russe. Et l'édition 2008 a été interdite par un jeu de procédures administratives et judiciaires. Donc ça les arrangerait bien au final que ce soit à Berlin, comme ça personne, du moins pas grand monde pourrait y aller.
Surtout ça, oui.
Et voilà, donc voilà, et chaque année encore en Russie, les militants LGBT qui décident de braver ces interdictions sont violemment attaqués, battus, arrêtés et jugés.
On en a fini pour les infos ?
Tout à fait.
On lance une petite musique. Alors c'est Candy Cane. Tu veux la présenter ou...
Bah Candy Cane, on en a mis plusieurs fois parce qu'on l'aime bien et on l'a mis notamment aujourd'hui parce que c'est une chanteuse américaine féministe et travailleuse du sexe et du coup on se disait qu'on allait faire toutes les chansons de cette émission avec cette chanteuse là, Candy Cane.
Ok.
comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage.
Dans l'émission On n'est pas des cadeaux, aujourd'hui on va parler de travail du sexe et féminisme et du strass. Alors je ne sais pas si tu veux nous présenter ce que c'est le strass en France.
Alors le strass déjà c'est l'acronyme de syndicat du travail sexuel. Bon parce que voilà, en France, bon, il y a déjà deux données. Il faut savoir qu'il y a de fait, et d'ailleurs ça peut toujours nous tomber sur la gueule, les lois de 46 qui font que même de toute manière la simple association de travailleurs, travailleuses du sexe est pénalement pour on peut le poursuivre pour proxénétisme, et même proxénétisme réciproque, ça c'est absolument extraordinaire. C'est comme les couples déçus réciproques pour lesquels on poursuivait les mineurs qui étaient pris pour homosexualité il y a une trentaine d'années. Bah ouais. Et que donc voilà, depuis un certain nombre d'années, il y a, et c'est très bien, et c'est génial, ce qu'on appelle les associations communautaires, qui ne sont pas si nombreuses, hein, je veux dire, il y en a peut-être quatre en France, on trouvait pour tout, hein, je citerai le PAST à Paris, Cabiré à Lyon, Crisédis à Toulouse, qui sont donc des associations paritaires, comme on dit, c'est rouillades, des travailleurs du sexe et des non-travailleurs du sexe. Bon, de fait, les non-travailleurs du sexe sont toujours majoritaires, parce que évidemment, c'est plus facile, d'un point de vue social, d'apparaître, et évidemment, les risques sont moindres. Et donc il manquait obstinément, j'allais dire, une association, parce que de toute manière c'est sous forme associative au départ, les syndicats sont des associations de droit, entre majoritairement personnes travailleuses du sexe. Il y a eu des tentatives, jusqu'à l'an elles ont été réprimées, hein. La dernière c'était une nana de Périgueux, la préfecture avait carrément fait appel contre la constitution de l'association. Et donc, lors des dernières assises de la prostitution, qui est une espèce de raout quelquefois un peu universitaire, mais qui a le mérite d'exister, en mars dernier, eh ben, un certain nombre de personnes ont dit, non, bah ben là, tant pis, on lance un syndicat. Je veux dire, tant pis, je sais pas pourquoi tant pis. Hein. On lance un syndicat, c'est clairement un truc qui sera effectivement un truc communautaire, mais qui sera nettement aussi, pour qu'on soit reconnu comme travailleurs et travailleuses, et qui sera aussi sur les conditions de travail. Et ben voilà, c'est chose faite, le syndicat existe, il a à peu près 300 membres, dont à peu près un tiers de travailleuses de rue, hein, parce qu'on dit toujours, ah, vous n'êtes que des... Oui, non, non, je suis désolé, il y a tout. Hein. Même, aux dernières nouvelles, c'est 70% femmes bio, 20% trans, 10% mecs. Parce qu'on dit toujours, ouais, c'est des mecs. Ben non, 10% mecs, voilà.
Quand tu dis travailleuses de rue, tu dis, voilà. Ça sous-entend qu'il y a des personnes qui travaillent sur Internet.
Ah ben, actuellement, de toute manière, étant donné le développement des technologies, la majorité des personnes qui exercent qu'on appelle le travail du sexe au sens large, mais là, sachant que travail du sexe, ça recouvre évidemment aussi les cinémas porno, etc., etc. Mais on va dire ce qui est désigné sous le nom de prostitution, c'est-à-dire les services sexuels à personne, moi j'appelle ça comme ça. Oui, évidemment, les personnes qui traînent dans la rue maintenant sont de moins en moins nombreuses par rapport au nombre de personnes qui bossent. Bah oui, et sont les plus vulnérables, sont les plus visibles. Et ça, nous entendons bien aussi, un des buts du strass, c'est d'éviter ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de diviser les travailleuses du sexe, les jeter les unes contre les autres, c'est-à-dire les nouvelles contre les anciennes, celles qui bossent à tel endroit contre celles qui bossent à tel endroit, et dernière spécialité de notre préfet à Lyon, les régulières contre les irrégulières. Donc voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est comme on s'était dit, écouter un enregistrement d'une intervention qui a été faite par notre secrétaire général bien-aimé et vénéré, Candide. Moi, en plus, j'adore cette nana parce qu'elle est très pragmatique, qui a été faite aux UEH à Marseille cet été, puisque parmi les débats, il y avait travail du sexe et féminisme. Et bon, je trouve la manière de Candide donner les choses est tout à fait géniale.
Voilà, on écoute, même si le son, comme ça partait d'un micro et tout, le son est des fois un peu...
Mais il faut bien le dire, vraiment pourri.
Ouais, voilà, on peut le dire. Mais ce qui est dit est très bien.
Donc, je vais parler de la lutte des travailleuses du sexe et en quoi c'est une lutte féministe, donc qui me concerne toutes. En deux mots, il faut resituer cette lutte. En 2003, la loi de sécurité intérieure, Nicolas Sarkozy, instaure le délit d'un collage passif. Le délit d'un collage passif est basé averti maintenant de 3 550 € d'amende et 3 mois d'emprisonnement. La loi est passée sur un argumentaire à la fois de lutte contre le proxénétisme et en même temps avec un discours sarkozien à l'époque qui visait les associations riverains qui plaignaient des nuisances et en promettant de nettoyer les trottoirs, ce qui avait été fait. Donc on voit bien dans le cumul de ces arguments comment on dépeint les prostituées à la fois comme des délinquantes et des victimes qui vont être sauvées par la pénalisation. Les conséquences de la loi ont été dramatiques en termes de violence et de dégradation des conditions de travail. En mai 2002, les annonces de la loi, il y a eu un mouvement très fort qui a continué sous d'autres formes depuis. De nombreuses associations se sont mobilisées. La LSI est en réalité pas totalement appliquée. C'est réellement un climat général de répression qui a été instauré. Un arbitraire policier, garde à vue à répétition, les violences extrêmes, etc. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que ce cadre légal est important. Il reflète surtout la manière dont les travailleurs du sexe sont pris en compte dans la société. Et donc en France, par exemple, il est parfaitement normal qu'on soit réprimé et qu'on soit considéré comme délinquante. Parallèlement à la répression, en tant que militante, en tant que mouvement, la principale violence qu'on a voulu dénoncer, c'est la stigmatisation. Et c'est l'infamie sociale qui est accolée au statut de prostituée qui permet la répression et qui, parallèlement à ça, il y a un mécanisme de confiscation de la parole qui nous empêche de nous organiser, de la combattre et de la dénoncer. En réponse au stigma que nous, on a baptisé la putophobie, on a répondu par un discours de fierté. Mais l'idéologie abolitionniste qui est assez importante, c'est qu'on nous soutient en réalité justement dans la mesure où on dénonce la répression, mais pas dans la revendication de droit et encore moins dans la notion de fierté qu'on prône contre le stigmate. C'est en ça que je veux parler du stigmate de putain, comme nous concernant toutes, avec son rôle de contrôle social. Le fait de déconstruire ce stigmate est un enjeu réel du féminisme, je pense. Donc, être pute ou même prostituée, c'est avant tout une insulte. C'est une infamie. Elle pèse d'abord sur celle qui exerce l'activité, mais c'est aussi une menace qui pèse sur l'ensemble des femmes. C'est-à-dire que le risque d'être assimilée à une pute dès qu'on sort du comportement qui est accepté par la société, c'est le risque de subir la même exclusion, la même violence. Et l'ordre moral a réellement besoin de nous maintenir dans cette position stigmatisée. Et la violence est utilisée comme arme de contrôle sur le comportement des femmes en général. Donc le stigmate de pute est un stigmate de genre. L'une des conséquences est de nous diviser. Les non-putes, entre guillemets, ont tout intérêt à se dissocier en fait, du stigmate. L'exemple le plus flagrant ici, j'utilise que le nom de l'association des putes insoumises, où le message sous-jacent c'est « je ne suis pas mauvaise, donc je mérite le respect ». Mais du coup, c'est conditionner le respect à un comportement qui est en accord avec l'ordre moral. Alors, donc, c'est une position de justification qui admet la norme sociale, alors que ce que nous, on souhaite mettre en avant, c'est même en tant que pute, on exige, on le demande, mais on exige le respect, et on conteste ce code social qui nous est imposé. Donc, la norme sociale, ça doit juste être détruite. L'outil de la fierté qu'on utilise en tant que travailleuse du sexe est réellement un outil, je pense, qui doit être partagé par la scène féministe. Je vais revenir rapidement, plus précisément, sur la situation des travailleuses du sexe et le stigmate comme oppression. La notion de fierté ou même de légitimité, on peut dire, parce que fierté parfois c'est plus compliqué à adopter, est importante face au jugement de la société, mais aussi en rapport de force avec les clients au quotidien. Et une telle violence dans la honte qu'on veut nous imposer, qu'il y a des conséquences en termes d'estime de soi et de capacité à imposer ses conditions en rapport avec le client, ça se cumule avec parallèlement la victimisation de la société, l'image qui est diffusée où on est affaibli dans ce rapport de force. Le travail du sexe nous oblige réellement à revenir sur l'idée de consentement dans le rapport et à le remettre au centre. L'image et discours diffusés sur les travailleuses du sexe ou sur les pubs ou les prostituées refusent la capacité à consentir, soit parce qu'on s'est contrainte, soit parce qu'on s'est aliéné. Évidemment, la notion de fierté s'y oppose complètement. Ce que nous disons en nous refusant la possibilité de dire oui, en nous refusant la légitimité de notre choix, par là même on décrédibilise notre parole lorsqu'on dit non. Et c'est tout à fait également que l'état actuel fait que le viol d'une prostituée n'est pas reconnu, ni légalement, les plaintes ne sont pas enregistrées. Et même dans l'idéologie qui est diffuse, on a tellement l'idée que le corps d'une prostituée est disponible, qu'elle n'a pas eu le choix d'y être. Donc, à la limite, c'est la vie du monde, c'est pas tellement, différent. Donc, il y a un vrai enjeu à respecter notre parole lorsqu'on parle de choix. Il faut évidemment dissocier consentement et désir, et cela, un des tabous de la société qui est travailleuse du sexe brise. Il y a toujours, évidemment, tout le monde connaît ça, l'image idéalisée, stéréotypée de la sexualité qu'on veut raconter à une deuxième femme, c'est-à-dire de qu'est-ce que tu veux, l'amour, le désir, avec l'idée annexe qui est disponible et accessible au désir masculin. Et ces deux codes sont brisés dans le rapport prostitué. L'acte n'est pas vu, il est conditionné, explicitement conditionné à un tarif, à un temps, à des conditions, à des actes, et donc il est contractualisé, verbalisé. Et il est clair que l'acte sort du rapport, sort du cadre de l'amour et du désir qu'on attend du rôle de la femme. On rajoute à ça le fait d'être en dehors du cadre monogame, reproductif, le fait d'occuper l'espace public, et le fait d'accéder à une indépendance économique. Les travailleuses du sexe sont en première ligne dans la transgression des règles de genre. Et c'est à ce titre qu'on est les premières victimes des violences sexuelles. Donc, le danger que représentent les pubs par le fait de sortir de ces codes va justifier de nous maintenir dans un isolement et dans une oppression par tous les moyens légaux, mais aussi sociétaux. Dans le système abolitionniste, par exemple, comme en France, la définition du proxénétisme, c'est-à-dire toute aide, assistance ou facilitation de la prostitution sans même en tirer un bénéfice, fait en sorte que la solidarité devient pénalisable. Et donc, en somme, le système s'arrange pour réellement nous accepter seulement lorsqu'on est réellement isolé et seul à gérer toutes les conditions de notre travail, qui nous empêche de nous organiser. Dans un système réglementariste, le cadre légal va nous confisquer le contrôle qu'on peut avoir sur notre activité. Je vais pas m'attarder sur le cadre légal, je voudrais surtout qu'on puisse débattre, en fait. Mais dire seulement que, dans ce contexte, on cherche quand même à organiser la solidarité. La solidarité entre nous, mais aussi la solidarité avec les féministes. Et je pense que les combats des putes et des non-putes, justement, en termes de déconstruction des codes sociaux et de réflexion sur, sur le consentement, etc., toute la réflexion qu'on peut apporter et aux actions. Donc, on a parlé tout à l'heure de socle minimal d'accord. Je pense qu'on a un socle minimal d'accord contre la répression. Et c'est extrêmement important aujourd'hui, surtout parce que la répression en est à un point extrêmement grave. Par contre, on ne veut pas être aidé. On ne veut pas de gens qui viennent nous sauver. On ne veut pas de pitié. Ça ne nous aide en rien. Ce qu'on exige, c'est la solidarité dans la lutte, dans notre lutte pour la dignité, contre la répression, évidemment, mais la répression est causée justement par ce manque de... par l'infamie qu'on nous colle. Donc, en somme, nous soutenons réellement une solidarité, mais dans l'égalité.
Et voilà, c'était Cadine aux UEH. Et là, on continue... j'ai une question pour toi. C'est il y a eu dernièrement une AG du Stras, et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Où est-ce que vous en êtes par rapport à des plateformes de revendications ou juste des revendications?
Eh ben, on se structure déjà, parce que l'air de rien, c'est tout un boulot de se structurer dans un métier, des situations sociales extrêmement diverses, hein, parce que de toute manière, tout ce qui est travail du sexe, c'est extrêmement divers. Et donc, des situations extrêmement diverses. Il n'y a pas du tout une unité comme ça donnée à l'avance, des points de vue qui seraient aussi donnés, évidents pour tout le monde. C'est tout un travail. Et ça, je pense que c'est un peu le cas, je l'ai vécu dans le mouvement trans aussi, hein, de toutes les minorités, c'est que, je veux dire, il y a une telle pression qu'on est assez éparpillé. Donc, en soi, c'est déjà, sans vouloir faire un jeu de mots, une performance. Et donc, on ne se structure pas que pour se structurer. C'est qu'on est bien décidé, là, à lancer ou à relayer, parce que, je veux dire, les revendications, il y en a qui ne datent pas d'aujourd'hui, ni de hier. Dans l'année qui vient, par exemple, parce que bon, on a décidé de fonctionner à un an, hein, sur entre deux AG, voilà, on va effectivement déjà continuer les luttes pour ce qui était déjà porté par tous les mouvements depuis un moment, qui est porté par les associations communautaires, qui est porté par nos alliés, parce qu'on en a un certain nombre, qui sont tout simplement l'abolition de tout l'arsenal légal spécifique au travail du sexe, tout simplement. C'est-à-dire que, de toute façon, justement, ce qu'on demande, c'est de ne pas être mis à part de la société, donc de ne pas être l'objet de lois ni de règlements spécifiques, c'est en quoi, d'ailleurs, nous sommes absolument anti-réglementaristes. Absolument pas. Bon, il y a eu, là, il y a quelques temps, la sortie de Boutin sur la réouverture des bordels, qui est, en plus, de n'importe quoi, c'est effectivement un faux débat, mais qui montre bien, avec, par exemple, là, en ce moment, des choses beaucoup plus concrètes, comme la proposition d'imbéciles à Lyon autour du préfet de créer tout simplement des zones de regroupement pour les camionnettes, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement ça ferait une tentative de plus de stigmatiser une population par le regroupement à l'écart, ce qu'on a déjà fait pour les Roms, ce qu'on a déjà fait pour des tas de gens, hein. Et ben là on le ferait pour être du sexe. Non, on voulons absolument, au point de vue géographique comme au point de vue légal, nous sommes partie prenante, nous sommes partie totale de cette société, nous l'avons toujours été et nous continuerons à l'être, hein. C'est à la fois aberrant et extrêmement dangereux, cette logique de... Donc, nous, voilà, ce qui veut dire que, précisément, nous demandons l'abrogation des lois de 46, tout simplement, qu'il faut rappeler, sont des lois contre le proxénétisme, mais qui ont pour effet surtout... Ah ça, elles ont fait disparaître la plus grande partie du proxénétisme d'abus, hein, parce que nous faisons évidemment la différence entre le proxénétisme d'abus et le proxénétisme de soutien. D'ailleurs, la plupart des juristes le font aussi. Mais qui, par la notion de proxénétisme de soutien, qui fait que toute aide apportée contre rétribution ou non à une activité dite, comme on dit toujours, prostitutionnelle, c'est au travail du sexe, on le met... travail du sexe, je veux dire, service sexuel, hein, eh bien, est passible et tombe sous le coup de cette loi. C'est... Par ailleurs, évidemment, les fameuses lois contre le racolage, alors il ne faut pas oublier d'ailleurs que les lois contre le racolage, évidemment, on a beaucoup parlé de la loi contre le racolage actif et passif, qui faisait partie de la LSI il y a 5 ans. Il faut savoir qu'il y avait déjà depuis longtemps des lois contre le racolage. Hein. C'était une loi de plus, c'était peut-être la loi de trop, si j'ose dire, mais on demande l'abrogation de toutes ces lois. Il faut savoir qu'actuellement, en plus, il commence à y avoir la chasse aux gens sur Internet. Hein. C'est-à-dire que c'est plus seulement les tapins de rue qui sont emmerdés. Réellement, il y a eu des gens qui ont été convoqués dans diverses gendarmeries pour des annonces sur Internet. Donc là, la situation, ce qu'on est en train de vivre, apparemment en France, c'est un passage de l'abolitionnisme qui correspond à une tentative d'extinction du travail du sexe par divers biais légaux ou non, au prohibitionnisme, qui est réellement une offensive frontale pour anéantir et faire disparaître les travailleuses du sexe. Les anéantir autant que groupe social. Et là, on est en train de passer à ça. Et du coup, quelle est aussi une de nos un de nos grands axes pour cette année, et ben c'est que nous allons lancer une campagne préventive. Je dis bien préventive parce que le coup est encore à venir, mais il se prépare. On l'a très bien vu récemment dans les discours de certains politiques, mais aussi de gens comme le mouvement de l'Amicale du Nid, qui cherche à nous, comme on dit, à nous réhabiliter, qui maintenant sont nettement sur la voie de la pénalisation des clients, qui est déjà une réalité en Europe du Nord. qui est une catastrophe sociale pour les travailleurs du sexe d'abord, et que en France il y a réellement un risque. Donc nous allons lancer là, très prochainement, une campagne vis-à-vis des politiques, mais j'espère aussi vis-à-vis de la population générale, pour dire les clients sont légitimes à être clients tout autant que nous à vendre des services sexuels. Et c'est d'abord une hypocrisie sociale, c'est vraiment horrible, parce que là ça nous ramène aussi à cette fiction de la gratuité du sexe et de l'affectif. Or, la gratuité du cette espèce de notion, c'est précisément en fait ça qui permet depuis des siècles d'arnaquer les nanas, de leur faire faire du boulot gratuitement, de les rendre dépendantes, etc. C'est précisément cette espèce d'injonction à la gratuité de ces choses-là. Ce qui est, alors que justement, le fait qu'elles ne soient pas considérées comme dues, qu'elles ne soient pas considérées comme gratuites, qu'elles soient considérées comme devant faire objet d'un consentement à chaque fois et d'un contrat, eh ben ça changerait certainement beaucoup les choses. Et je vais pas faire ma super féministe, parce que je suis pas sûr que forcément le travail du sexe soit forcément plus féministe que tout le reste. Je pense qu'il ne l'est pas moins et pas plus. Mais je suis désolé, nous portons aussi ça. Nous portons aussi la volonté de ce changement de société. Et que c'est pas que, du coup, que pour notre gueule.
Et comment vous organisez le stress, là vous avez fait une, vous êtes retrouvé, et ça, comment ça se répartit ensuite dans les personnes dans les villes, comment vous diffusez l'information, je sais pas, tant aux médias que aux autres travailleuses du sexe, dans combien de villes il y a un peu des personnes qui...
En fait, on s'arc-boute essentiellement sur le réseau qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, Paris, Lyon, Toulouse, Lille, hein, un peu Marseille. C'est-à-dire que c'est les endroits où il y a déjà eu l'organisation, où il y a déjà souvent des associations communautaires qui portent ces revendications. C'est par elles aussi que nous sommes arrivés. On leur doit une fière chandelle. Hein. Sans elles, je le dis très franchement, nous, on n'en serait pas là. Et c'est pas pour faire c'est pas des dames patronesses, c'est pas les mouvements d'unis, hein, ces assos. Hein, c'est quand même quelque chose de très différent. Et donc, comment nous organisons? Eh ben, c'est que nous faisons. Moi, j'adore les mots barbares que j'apprends quelquefois dans les AG. J'ai appris le mot outreach. Alors moi, avant, je ne savais même pas que ce mot existait. Ça veut dire tout simplement la notion de diffusion. C'est pas seulement une notion de recrutement. C'est une notion de diffusion et de rassemblement. C'est une notion anglo-saxonne. C'est assez marrant. Je trouve qu'elle est assez forte. Effectivement, là, de toute manière, nous sommes effectivement plus nombreux sur la région parisienne qu'ailleurs, mais nous sommes déjà toute une petite bande sur la région Rhône-Alpes. Hein, encartés ou non encartés, parce que je suis désolé, le syndicat ne se bat pas, nous ne nous battons pas pour nos membres encartés, si j'ose dire. Hein. Nous n'exigeons pas pour qu'on prenne en compte ce qui arrive à quelqu'une ou à quelqu'un qui a signé son petit papier. Non, on n'est pas la CGT, hein. ni un certain nombre d'autres syndicats. C'est clair. On prend la responsabilité. On est effectivement relativement peu nombreuses. On est effectivement relativement des privilégiés sociaux, bah oui. Et ben on prend la responsabilité d'aller en avant. On ne fait pas les hypocrites et sanitouches. On prend la responsabilité d'aller en avant, de porter des trucs. Et effectivement, alors du coup, comment on diffuse? Ben je pense que là, on va aller frontalement. Alors il y a deux axes. Hein. Il y a l'axe effectivement solidarité, où on a déjà mis en place un soutien juridique. Hein. On a deux avocats, on a deux juristes. Donc en cas de, on peut écrire au Stras. Là, je dois avoir quelque part le numéro de la Folline. Évidemment, je l'ai oublié, je crois. Mais bon, sinon sur le net, c'est www.stras-syndicat.org, c'est pas compliqué, parce qu'on a une infolane, mais je l'ai évidemment oublié. Ça, je suis génial pour ça. L'autre axe, c'est l'axe du lobbying, hein, on va aller chercher les élus, là, de toute façon, il y a des élections au printemps, il y a les élections régionales, on va commencer à tanner les élus. On se fait pas d'illusions, hein, à part les Verts, encore certains des Verts, ils sont tous contre nous. Et ils sont tous pour la pénalisation des clients. Mais justement, il faut qu'on arrive à leur faire dire maintenant, avant qu'ils commencent à mettre en marche leur machine de guerre, qu'ils soient obligés de se dévoiler. Et voilà, c'est un peu ce qu'on va faire dans les temps à venir.
Moi, je voulais juste que tu puisses préciser quelque chose, c'est que tu as utilisé plusieurs fois tu as nommé l'amicale du nid, et du coup, je trouve que c'est bien pour les auditrices ou auditeurs de juste d'expliquer, de resituer un peu où ils se situent et ce que c'est.
Alors, nos amis de l'amicale du nid, comme du mouvement du nid, qui sont issus d'une scission d'un mouvement qui s'appelait le nid, tout simplement. Eh ben, c'est ce que nous appelons entre nous les dames patronesses. Il y a pas que des, nanas, mais il y a beaucoup de nanas. Il y a pas que des nanas, il y a aussi des mecs. Leur grande affaire, c'est des religieux. Hein. En tout cas, ils ont une pensée à base religieuse. Leur grande affaire, c'est la prostitution est une dégradation terrible de l'humain, et il faut absolument sauver les travailleuses et travailleurs du sexe de cette horrible... Alors, ils sont pas, du coup, ils n'ont pas un discours spécifiquement stigmatisant par rapport aux travailleurs du sexe. Ils disent pas c'est des ennemis. Ils disent c'est des pauvres malheureuses. D'ailleurs, derrière, il y a toujours des méchants proxénètes. Ils sont persuadés que derrière toute personne qui se livre d'une manière ou d'une autre au travail du sexe, il y a un voire plusieurs proxénètes. Aujourd'hui, la réalité n'est plus tellement ça. Même si, effectivement, il y a toujours des réseaux, mais c'est assez spécifique, ces réseaux-là. Et donc voilà, on a ces gens-là. Alors il faut savoir, bon, ils sont souvent avec un discours, par exemple, ils ont fait un grand raout, il y a 2 mois à Lyon, soi-disant pour célébrer l'anniversaire, le 34e anniversaire de la mobilisation de 75, là où des tapins de rue avaient occupé pendant un moment, 15 jours je crois, l'église Saint-Lizier. Mmh. Et là, c'était clairement, bah oui, ils ont déjà pris le virage, ils ont dit non, il faut arrêter toute poursuite contre le racolage, il faut supprimer la LSI, etc. Mais il faut poursuivre les clients, ces méchants prostitueurs, parce que maintenant c'est dans leur langage, maintenant les clients sont des prostitueurs. C'est en fait, c'est marrant parce qu'en gros ils sont aussi proxénètes les clients. En gros, on a l'impression, de toute façon, il n'y a que des proxénètes sur la planète. C'est absolument extraordinaire. Et voilà, c'est des gens intelligents. Ils ont déjà pris le virage. Hein. J'allais dire, on a même un peu de retard sur eux. Et voilà, c'est ce qu'on appelle donc les dames patronesses. Qui sont largement à l'origine de la victimisation, hein, tout le langage de victimisation autour du travail du sexe. C'est des gens extrêmement dangereux.
On pourrait faire une petite pause musicale en réécoutant Candy Cane.
Oui, ça marche. Alors la chanson cette fois c'est Homewrecker.
Homewrecker, don't wreck my home. Keep your hands to yourself and leave them alone. You're gonna get what's coming to you. I was a homewrecker too. Man, stealer, stay away from a man.
Voilà, c'est toujours l'émission On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu. Et donc là, j'avais encore une autre question à te poser. C'est hier, il y a eu un rassemblement Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus, nous raconter comment ça s'est passé, tout ça et tout ça?
Le 17 décembre est, depuis plusieurs années, la journée mondiale, parmi 40 000 journées, autres journées mondiales et nationales, tout ce qui est possible, contre les violences, toutes les formes de violences exercées sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, il y a eu... ça commence à se répandre. Hein. Là, hier, il y avait des rassemblements, même quelquefois importants, dans pas mal de villes. Alors bon, bien sûr, le monde anglo-saxon... Quoi qu'on en puisse dire, assez en avance, mais aussi des rassemblements, j'ai su, en Inde et en Thaïlande. Donc voilà, c'est des rassemblements de plusieurs centaines de personnes. Je veux dire, à Lyon, on était un peu pâle. À Lyon, on est toujours un peu pâle, il faut avouer. Bon, il faut avouer, en ce moment, il y a aussi... voilà, il n'y avait pas beaucoup de travail du sexe pour une excellente raison. C'est comme je l'ai dit, je crois, à un moment dans l'émission. En ce moment, il y a une véritable offensive de la préfecture. Il y a réellement un harcèlement de la part des forces de police qui est absolument infernal, tel qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Du coup, les nanas, elles n'ont pas super envie de se prêter. Je fais remarquer d'ailleurs que les mêmes, par contre, viennent énormément, hein, plusieurs dizaines à la fois, dans les dernières réunions qu'on a fait avec les riverains, notamment dans le 7e. Hein, je dis on, c'est Cabiria et le Strass. Ça veut dire que, voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'elles se cachent, mais bon, elles ne viennent pas, pour tous les... Donc du coup, on était effectivement surtout là, les associatifs et syndiqués, à causer aux médias, comme on a, voilà, ce qui est aussi un de nos buts, hein, faire un petit daïd amélioré. voilà. Puis c'est le 17 décembre, alors à chaque fois il fait froid, puis à chaque fois on a envie de s'en aller parce qu'il fait froid. Oui, c'est, on a mal choisi la saison. Bon, je sais pas qui c'est qui a choisi la date. Hein. Mais dans l'hémisphère sud, c'est l'été, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être très bien quelqu'un de l'hémisphère sud qui l'a choisi, il a tout à fait raison.
Et il y a pas mal de médias régionaux qui sont venus, ou même locaux?
Il y avait FR3, TLM, enfin voilà. On est un peu à la mode, hein. Alors ça veut pas dire du tout être à la mode, ça veut pas dire du tout que les revendications sont réellement écoutées, ni que des choses sont en train de bouger. Mais il y a des périodes de mode, et là actuellement, effectivement, quand on parle, notamment sur Lyon, avec tout le barouf qui a pu être fait les dernières années, avec les arrêtés municipaux, etc., ça ramène. Après, on n'a pas vu, malheureusement, que le fait que ça soit médiatisé fait beaucoup bouger les choses. Hein. Il faut quelque chose de plus, visiblement. Je pense que ce quelque chose de plus, c'est le rassemblement des gens.
Mais vous avez un peu imaginé, du moins, je vais dire un truc qui n'est pas évident, mais sur le Rhône, un peu des organisations pour soutenir toute la répression qu'il y a sur les travailleuses du sexe de la part de la préfecture et tout ça, et des forces de police et...
Je saisis pas la question. Les organisations.
Est-ce que vous avez des trucs concrets que vous mettez en place pour soutenir les travailleuses de rue qui sont réprimées au quotidien?
On a le soutien juridique qui existait déjà, de toute manière, qui a déjà été mis en place par Cabiria. Il faut savoir que c'est une travailleuse du sexe qui porte l'attaque en justice, qui n'est toujours pas jugée, contre les arrêtés qui ont été pris il y a déjà 2 ans. Ça va pas très vite, hein. Mais voilà, si, de toute façon, il y a une contre-attaque juridique, c'est clair. Le problème, c'est que le temps du juridique et le temps de la répression ne sont pas les mêmes. Et que, on ne va jamais aussi vite dans la contre-attaque qu'ils vont, eux, dans l'attaque, ça c'est clair. Et que le problème, par contre, de se rassembler physiquement, à mon avis, ça finira par revenir. Hein. Je veux dire, il y avait quand même l'année dernière, en 2008, à la manifestation du 2 juin, il y avait pas mal de monde. Je veux dire, et c'est possible, si on rassemble toutes celles qui peuvent se le permettre parmi nous et nos alliés, je pense, oui, on peut effectivement faire du barouf.
Parce que justement, il y avait eu en 75 des occupations. C'est des choses, des formes de lutte réenvisageables dans le futur, quoi.
Absolument. D'ailleurs, on les utilisera peut-être aussi, contre d'autres trucs. Vous en aurez la surprise, parce qu'on se bat aussi contre les patrons, parce qu'on a des patrons dans certains cas qui abusent. Donc oui.
Et moi, je voulais juste revenir sur, donner un exemple, en tout cas, à quel point d'être médiatisé, c'est pas forcément parce que les journalistes ou les médias ont envie d'entendre le discours des travailleuses du sexe. C'était en 2008 aux Assises, où pendant la conférence de presse, il y avait 3 journalistes, il me semble, quelque chose comme ça, et pendant la marche de fierté des travailleuses du sexe, ils étaient une bonne quarantaine, je pense, parce qu'il y avait un côté genre, ah, de les voir ça va, mais de les entendre parler, on n'a pas trop envie en fait.
Bah oui, de toute manière, la parole des groupes stigmatisés par rapport à eux-mêmes est toujours suspecte. Hein.
Ça contribue à de l'exotisme aussi de la part des 37, c'est ça ?
40 ah. journalistes.
Moi, je voulais te donner une petite info qui est un rendez-vous d'ailleurs. C'est donc ça sera sur Ping TV le 21 décembre à 22h30. Et donc c'est Mutante, il s'appelle ce film, et c'est le nouveau documentaire de Virginie Despentes. Donc c'est un documentaire féministe, porno-punk, roboratif et passionnant. Alors c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc Virginie Despentes qui dit que Mutante a pour ambition de jouer un rôle salvateur parce que tranchant sur le discours ambiant qui voudrait que le sexe ne soit jamais aussi bien pratiqué que dans la chambre, que la dignité des femmes dépende toujours de leur sagesse et passivité. Oui, les lesbiennes peuvent aimer le sexe, la brutalité, le sex work et le montrer. Donc elle semble loin l'époque où la communauté lesbienne s'écharpait à cause des sextoys et voyait dans la pénétration un symbole de l'hétéro-patriarcat. Aujourd'hui, la nouvelle génération lesbienne et féministe en France assume son goût pour la sexualité, joue librement avec ses genres, a investi le champ de la post-pornographie et revendique des espaces pour créer de nouvelles subjectivités. Donc l'écrivaine Virginie Despentes a voulu rendre hommage aux réalisatrices activistes sex workers qui ont ouvert la voie de la réappropriation du corps, de la sexualité des femmes et de ses représentations aux États-Unis dans les années 80. Donc il y a Annie Sprinkle, Maria Betty, Lynn Brindlove, Candida Royal et Carole Quinn.
Et Michel T.
Et voilà, donc ça sera sur Ping TV le 21 décembre à 22h30. J'avais il y a 2 semaines, on vous disait de lire des livres. Là, j'ai un deuxième rendez-vous télé. Là, ça sera plutôt 2 semaines télé. Et c'est quand même moins passionnant que le premier que je viens de vous donner, mais c'est sport et homophobie. Donc c'est un documentaire de Michel Royer sur toutes les insultes qu'il y a dans les stades véhiculées par les supporters sur des banderoles, autant que dans le milieu du sport, par les entraîneurs, entre joueurs, etc. Et ça, c'est le 4 janvier sur Canal+, à 20h50. Mais je pense, si vous ne regardez pas beaucoup la télé, il vaut mieux regarder le premier que le deuxième.
Ok, et ben on va se quitter avec une dernière chanson.
Est-ce qu'on fait un mot de conclusion avant?
Oh, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire encore? j'ai pas d'idée là.
Et ben,
ça me manque des fois.
Dans la semaine prochaine, ça sera à la même heure Lilith Martin et les autres. Pour quel thème?
Oui, bonjour, de Lilith Martin et les autres. C'est l'émission blague de Noël. Donc on va dire des blagues sur Noël et puis plein de trucs sexistes qui se passent pendant Noël. Voilà, on va raconter nos petites histoires.
Et dans 2 semaines, pour tout début janvier, c'est ça ?
Ouais.
On se retrouvera avec la fameuse émission érotique comme l'année dernière.
Voilà, c'est l'émission
avec
du 1er janvier,
textes.
Il me semble. Ok. Eh ben, au revoir, bonne soirée.
Au revoir, bonne soirée. Ah oui, non, j'ai encore un truc à dire. Là, ce soir, il y a la soupe sonore de Radio Canu à 19h30, c'est ça. Du coup, venez nombreux, il y aura de la soupe, il fera chaud. Il y aura qu'à affronter 5 minutes de marche ou peut-être une demi-heure de marche pour revenir jusqu'au CSA, c'est ça, ça dépend. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui habitent sur la Croix-Rousse, venez au CSA, il y aura de la bonne soupe et des chouettes montages.
C'est ça, c'est rue des Tables Claudiennes.
18. There was a Joe leaning on the back door, a couple jills. They had their eyes on a couple bills and their eyes were stay.
They was waiting to get their hands on some easy money. They flipped a dime. One said, I'll take heads this time. One stepped up, one stepped back. One loosened her shoulder strap. She couldn't speak. Her knees got weak. Oh, she almost takes easy money. There was this old black cat sitting in the old black Cadillac. The joke smelled sweet. She curled up at her boyfriend's feet. She said, listen, Sam, I got a plan. I'd just like to make some easy money. Jill set the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy got wise to all the lies and flies out the door with her.